Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 91 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit, qui nous maintient en esclavage sans qu'on s'en aperçoive. Oui, en esclavage, je n'exagère pas. C'est basé sur un tissu de mensonges et de manipulations qui s'étend jusque dans des domaines qu'on ne soupçonne pas. Mon propre déconditionnement continue. J'ai été surpris et fâché de voir à quel point on m'a menti, depuis tout petit, sur les maladies et le risque de tomber malade par contagion. Ce qui fait penser qu'on est en danger et qu'on a besoin d'être protégé, qu'on ne peut pas le faire soi-même et donc qu'on dépend du système médical qui est une partie de l'État. On en parlera bientôt. Pour l'instant, la suite de « La superstition la plus dangereuse ». Le début du livre est à l'épisode 50 et voici le chapitre d'aujourd'hui. La contradiction libertarienne. Le fait qu'il existe un parti politique libertarien est peut-être la meilleure illustration de la façon dont la croyance en l'autorité déforme la pensée et entrave la réalisation de la liberté. Le cœur et l'âme du libertarianisme sont le principe de non-agression, l'idée que l'usage de la force ou de la fraude à l'encontre d'autrui est toujours mauvais et que la force n'est justifiée que si elle est utilisée pour se défendre contre une agression. Ce principe est parfaitement sain, mais essayer de le concrétiser par le biais d'un processus politique est totalement contradictoire, car le gouvernement et la non-agression sont totalement incompatibles. Si l'organisation appelée gouvernement cessait de recourir à la menace ou à la violence, sauf pour se défendre contre les agresseurs, elle cesserait d'être un gouvernement. Elle n'aurait aucun droit de gouverner, aucun droit de légiférer, aucun monopole de protection et aucun droit de faire quoi que ce soit qu'un être humain n'a pas le droit de faire. L'une des excuses de l'activisme politique libertaire est l'affirmation selon laquelle la société ne peut se transformer de son arrangement autoritaire actuel en une véritable société libre que si elle le fait lentement et progressivement. Or, cela ne s'est jamais produit et ne se produira jamais pour une raison très simple. Soit l'autorité existe, soit elle n'existe pas. Soit il existe une classe dirigeante légitime qui a le droit de gouverner tout le monde, soit chaque individu est propriétaire de lui-même et n'est redevable qu'à sa propre conscience. Les deux paradigmes s'excluent mutuellement. Il est impossible de trouver un entre-deux, car chaque fois qu'il y a conflit entre ce que l'autorité ordonne et ce que le jugement individuel dicte, il est impossible d'obéir aux deux. L'un doit l'emporter sur l'autre. Si l'autorité l'emporte sur la conscience, alors les gens du peuple sont tous la propriété légitime de la classe dirigeante, auquel cas la liberté ne peut et ne doit pas exister. Si, en revanche, la conscience l'emporte sur l'autorité, alors chaque personne est propriétaire d'elle-même et doit toujours suivre son propre jugement sur le bien et le mal, peu importe ce qu'une autorité ou une loi autoproclamée peut ordonner. Il ne peut y avoir de changement progressif entre les deux, ni de compromis. Pour tenter de transformer le libertarianisme en un mouvement politique, il faut recourir à un hybride altéré et perverti des deux options. L'idée qu'un système de domination, gouvernement, peut être utilisé pour parvenir à la liberté individuelle. Chaque fois qu'un libertarien fait pression en faveur d'une législation ou se présente à une élection, il concède par ses propres actions que l'autorité et la loi édictées par les humains sont légitimes. Mais si quelqu'un croyait réellement au principe de non-agression, il comprendrait que les ordres des politiciens, les lois, ne peuvent l'emporter sur ce principe et que toute loi contraire à ce principe est illégitime. Cela vaut également pour l'idée des droits inaliénables. Si un individu a un droit inhérent à faire quelque chose, alors, par définition, il n'a pas besoin de la permission des tyrans pour le faire. Il n'a pas besoin de faire pression pour obtenir un changement de législation, ni d'essayer d'élire un maître qui choisira de respecter ses droits. Quiconque croit réellement au principe de non-agression, le principe sous-jacent du libertarianisme, doit être anarchiste, car il est logiquement impossible de s'opposer à l'initiation de la violence tout en soutenant une forme quelconque de « gouvernement » qui n'est rien d'autre que de la violence. Et les libertariens ne peuvent pas être des constitutionnalistes, puisque la Constitution affirme clairement, dans l'article 1, section 8, qu'elle confère à certaines personnes le droit d'exercer la violence par le biais de la taxation et de la réglementation, entre autres choses. Le principe du libertarianisme exclut logiquement tout gouvernement, même dans une république constitutionnelle. Quiconque tente de décrire un gouvernement qui ne commet pas d'acte d'agression décrira au mieux une société de sécurité privée. Néanmoins, tant de personnes ont été formées à la mentalité autoritaire que même lorsqu'elles peuvent voir la supériorité morale évidente de vivre selon le principe de non-agression, la base du libertarianisme, elles refusent toujours d'abandonner l'idée absurde que le droit de gouverner, l'autorité, peut être utilisé comme un outil de liberté et de justice. Il existe une différence fondamentale entre débattre de ce que le maître devrait faire, ce en quoi consiste toute politique, et déclarer que le maître n'a pas le droit de gouverner du tout. Être un candidat libertarien, c'est essayer de faire ces deux choses contradictoires. Le candidat légitime évidemment la fonction qu'il cherche à occuper, alors même qu'il prétend croire au principe de non-agression et de propriété de soi, qui exclut totalement la possibilité d'une fonction publique légitime. En bref, si l'objectif est la liberté individuelle, l'action politique n'est pas seulement inutile, elle est extrêmement contre-productive, car la principale chose qu'elle accomplit est de légitimer le pouvoir de la classe dirigeante. La seule façon d'atteindre la liberté est d'abord d'atteindre la liberté mentale en réalisant que personne n'a le droit de gouverner les autres, ce qui signifie que le gouvernement n'est jamais légitime, il n'est jamais moral, il n'est même jamais réel. Ceux qui n'ont pas encore compris cela et qui continuent d'essayer de demander au système de les rendre libres font le jeu des tyrans. Même les pétitions visant à réduire les niveaux de taxation ou les dépenses du gouvernement, ou demandant que les choses soient légalisées ou déréglementées, ou implorant d'autres réductions du contrôle du gouvernement sur le peuple, ne font toujours rien pour résoudre le vrai problème, et en fait ajoutent au vrai problème, en répétant et en renforçant involontairement l'idée que si le peuple veut la liberté, il doit la faire légaliser. L'action politique, de par sa nature même, donne toujours plus de pouvoir à la classe dirigeante et prive le peuple de ses moyens d'action. Si suffisamment de personnes reconnaissent et abandonnent le mythe de l'autorité, il n'y a pas besoin d'élections, d'action politique ou de révolution. Si le peuple ne s'imaginait pas avoir l'obligation d'obéir aux politiciens, ces derniers seraient tout simplement ignorés jusqu'à devenir insignifiants. En fait, la croyance en la démocratie réduit considérablement la capacité du peuple à résister à la tyrannie en limitant les moyens de résistance. Par exemple, si 49% de la population souhaite des niveaux d'imposition plus bas, mais maintient sa croyance en l'autorité, elle ne peut rien accomplir par le biais de la démocratie. D'un autre côté, si 10% de la population ne veut pas d'impôts du tout et a échappé au mythe de l'autorité, y compris le type démocratique, elle peut facilement atteindre son objectif par un simple refus de s'y plier. Si 20 millions de personnes, moins de 10% des contribuables américains, refusaient ouvertement de coopérer avec les tentatives d'extorsion de l'Internal Revenu Service, les impôts aux États-Unis, la classe dirigeante ne pourrait rien y faire et ce tristement célèbre IRS ainsi que l'énorme racket d'extorsion qu'il administre seraient réduits à néant. Il serait tout à fait impossible pour 100 000 employés de l'IRS de voler continuellement des millions d'Américains qui ne se sentent pas obligés de payer. En fait, il serait impossible d'appliquer une loi à laquelle même une fraction du public pourrait désobéir sans éprouver de honte ou de culpabilité. La force brute ne suffirait pas à faire respecter la loi. Il serait tout à fait impossible d'opprimer une population nombreuse qui ne percevrait pas l'obéissance en soi comme une vertu et qui ne ressentirait aucun devoir inhérent d'obéir aux ordres de ceux qui revendiquent le droit de gouverner. Les guerres ne se produisent que parce que les gens se sentent obligés d'aller au combat lorsque l'autorité leur dit de le faire. Tant que le peuple pourra être dupé en suppliant perpétuellement que la liberté soit légalisée, il sera facile de l'assujettir et de le contrôler. Tant que le devoir perçu d'une personne d'obéir à l'autorité l'emporte sur ses propres croyances personnelles et son jugement individuel, ses croyances et ses opinions n'ont en pratique aucune importance. Tant qu'un défenseur de la liberté n'est pas prêt à désobéir au maître, à enfreindre la loi, son prétendu amour de la liberté n'est qu'un mensonge et n'aboutira à rien. Nouveau patron, tel l'ancien. Nombreux sont ceux qui affirment qu'une société sans dirigeant est impossible, car dès qu'un gouvernement s'effondre ou est renversé, un nouveau gouvernement se met instantanément en place. Dans un sens, c'est vrai. Si le peuple continue d'adhérer au mythe de l'autorité, après tout bouleversement d'un régime actuel, il créera simplement une nouvelle série de maîtres pour remplacer l'ancienne. Mais la raison n'en est ni la nécessité d'un gouvernement, ni la nature fondamentale de l'humain. Ce que presque tous les combattants de la liberté ne réalisent pas, lorsqu'ils s'insurgent contre la tyrannie et l'oppression, c'est que le problème sous-jacent n'est jamais lié aux personnes au pouvoir. Le problème sous-jacent réside dans l'esprit des personnes opprimées, y compris dans l'esprit de la plupart des combattants de la liberté. Tant que les gens acceptent le mythe de l'autorité, même une révolution ne fera rien pour réduire l'oppression. Lorsqu'un groupe de tyrans et d'exploiteurs tombera, le peuple en mettra simplement un autre en place. Bien que peu de ceux qui agitent leur drapeau le jour de l'indépendance, chaque 4 juillet, s'en rendent compte, le niveau d'oppression sous le roi George III, juste avant la Révolution américaine, était insignifiant comparé au niveau actuel de taxation, de réglementation et autres intrusions, coercitions et harcèlements autoritaires qui se produisent couramment aux États-Unis aujourd'hui. Il est facile pour les gens de voir les injustices spécifiques commises au nom d'un régime particulier, mais beaucoup plus difficile pour ces mêmes personnes de reconnaître que la cause fondamentale de ces injustices est le système de croyance du public. Les livres d'histoire regorgent d'exemples de longs règnes sanglants de tyrans, suivis finalement d'une révolution sanglante, puis de l'onction d'un nouveau tyran. Le type de tyran peut changer, un monarque remplacé par un régime communiste, un tyran de droite remplacé par un tyran de gauche, une théocratie oppressive remplacée par un régime populiste oppressif, et ainsi de suite. Mais tant que la croyance en l'autorité perdure, l'oppression perdure. Même les exemples les plus odieux de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, commis au nom de l'autorité, persuadent rarement quelqu'un de remettre en question l'idée de l'autorité en soi. Au contraire, cela les motive seulement à s'opposer à une série particulière de tyrans. À titre d'exemple décourageant, la résistance la plus fervente aux nazis est venue des communistes, qui prônaient eux-mêmes une forme d'oppression tout aussi vicieuse et destructrice que le régime hitlérien. En raison de leur mentalité autoritaire, les Allemands de l'époque, comme les gens ailleurs, n'avaient aucune chance de parvenir à la paix ou à la justice, car tout leur débat national ne portait que sur le type de dirigeant tout-puissant qui devrait être aux commandes, sans même faire allusion à la possibilité que personne n'ait un tel pouvoir. Le discours public a été similaire dans la plus grande partie du monde, pendant la plus grande partie du temps, se concentrant sur la question de savoir qui devrait gouverner, au lieu de se demander s'il devrait y avoir des gouvernants. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ou là où vous préférez, si vous aussi vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde. car ça rend le podcast plus visible et donc ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la fin de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, un mélange de sagesse et de folie.